Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et avec Jean-Pierre Foultier qui nous a rejoint, bien sûr. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Deuxième semaine dans notre tour du monde que vous nous avez donc promis.
En fait, un voyage dans le temps pour voir comment, depuis l'Antiquité, puis avec les grandes découvertes, c'était la semaine dernière, les Européens ont perçu le monde extérieur. Un monde de barbares pour les Grecs, un monde d'infidèles pour les seigneurs des croisades, un monde de sauvages pour les conquistadors espagnols. Une perception faite essentiellement de méfiance, voire d'hostilité. Et pourtant, ces temps anciens ont été aussi des temps de curiosité pour ces mondes lointains qui devenaient, du fait de la distance et du mystère dont ils étaient nimbés, des mondes fascinants. C'est cet attrait des Européens pour le lointain dont je souhaite vous parler aujourd'hui, et en particulier de leur goût pour ce que l'on a appelé l'exotisme.
Un terme, je suppose, que vous allez nous définir pour commencer.
C'est à Rabelais que nous devons l'adjectif exotique qu'il utilise en 1552 dans le Carlivre. Au cours de leur navigation, Pantagruel et Panurge rencontrent des produits qu'ils ne connaissent pas, des épices surtout, dont le goût les étonne. Le substantif « exotisme », lui, est plus tardif et renvoie, je cite, « à un certain goût pour des mœurs ou formes d'art empruntées à des peuples lointains ». Tout ce qui n'est pas européen peut ainsi être qualifié d'exotique, surtout si cela est très éloigné de nous, comme l'est l'île au large du Venezuela, sur laquelle échoue un certain Robinson Crusoe, imaginé en 1719 par l'anglais Daniel Defoe, dans ce qui apparaît comme le premier livre pour la jeunesse. Beaucoup d'autres suivront, dont l'intention est certes récréative, mais pas seulement. Un certain de Mirval, auteur oublié d'un Robinson des sables du désert en 1842, l'a définit ainsi. Nous avons eu en vue de faire connaître à nos jeunes lecteurs non seulement les efforts industrieux d'un naufragé, mais encore les côtes et l'intérieur de l'Afrique, ainsi que les mœurs, usages et coutumes de ces contrées peu connues.
Alors, des récits d'aventures imaginaires, mais il y en a eu de vrais, j'imagine ?
Bien sûr. Au XVIIIe siècle, surtout, les expéditions se multiplient. En France, ce sont celles de La Pérouse ou de Bougainville. En Angleterre, celles de Cook. Des expéditions dont le but est d'abord scientifique. Nous sommes en plein siècle des Lumières, dont le goût pour la science est affirmé. Leur objectif est la découverte de nouvelles espèces. Rappelons-nous qu'un ou deux siècles plus tôt, des marchands vénitiens avaient introduit le café en Europe et que les conquistadors espagnols avaient ramené d'Amérique du Sud la tomate et la pomme de terre qui auront par la suite, je crois, quelques succès sur notre continent.
Pareil.
Un autre but de ces expéditions, c'est l'enrichissement des connaissances. Ainsi, des astronomes, des géographes, des naturalistes accompagnent les navigateurs et même des expéditions militaires comme celle de Bonaparte en Égypte. Plusieurs de ces navigateurs rapporteront des récits de leur voyage. Les journaux de bord de Bougainville, entre 1766 et 1769, de James Cook, entre 1768 et 80, ou encore la publication du Voyage de la Pérouse en 1791. Des récits qui ont parfois une portée philosophique tout à fait conforme à l'esprit des Lumières.
Je n'aurais rien contre un petit exemple.
Bougainville dresse du peuple tahitien le portrait d'individus libres et dénués de contraintes. Une aubaine pour Denis Diderot, le philosophe des Lumières, qui, dans son supplément au voyage de Bougainville, se sert de cette vision d'une société primitive idéalisée pour critiquer les modes de vie européens. C'est ce mythe de l'état de nature ou du bon sauvage que l'on retrouve aussi chez Jean-Jacques Rousseau. L'homme naît naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. On est passé ainsi, en un peu plus de deux siècles, d'une perception hostile de l'étranger lointain dont on se demandait même s'il avait une âme, à une conception humaniste et ouverte.
Et vous nous parliez au début d'exotisme, il correspond donc à cette vision un peu plus positive de ces mondes lointains ?
Oui. Au XVIIe et au XVIIIe siècle déjà, les turqueries, comme on disait, étaient à la mode. On se souvient peut-être du grand Mamamouchi, du bourgeois gentilhomme de Molière, ou de la marche turque de Mozart, et des opéras qui mettent en scène les harems des sultans. Il y a souvent là beaucoup de condescendance et on n'est pas très loin de la vision caricaturale, quelques siècles plus tard, d'un Tintin au Congo que j'évoquais récemment. C'est principalement au XIXe siècle, avec l'essor de la colonisation, ce sera mon sujet la semaine prochaine, que l'attrait pour ce qui est étranger à nos sociétés devient très en vogue. Les intérieurs bourgeois regorgent de bibelots venus d'Extrême-Orient, Japon ou Chine, où l'on en fabrique d'ailleurs spécialement pour l'exportation et les expositions universelles. Un triste exemple de cet attrait des Européens pour la chose exotique est l'exploitation dans les années 1810 de celle que l'on appelait la Vénus Hottentote, une esclave que l'on exhibait dénudée dans les foires. Mais c'est dans les arts, heureusement, que cet exotisme va aussi s'exprimer.
Ah, donc voyons ça, on commence par quoi ?
Par la littérature. Après Robinson Crusoe, que j'ai évoqué, c'est à la fin du XVIIIe siècle Bernardin de Saint-Pierre qui situe l'intrigue sentimentale de son roman Paul et Virginie dans le cadre idyllique et des paysans de l'île de France, c'était le nom de l'île Maurice. En 1801, c'est en France encore la publication d'Atala, roman dans lequel Chateaubriand décrit la nature luxuriante des rives du Méchassébé, c'est-à-dire le Mississippi, en Louisiane. À la même époque, en Angleterre, ce sont les poèmes orientaux de Byron ou en France, les orientales de Victor Hugo. À la fin du XIXe siècle, les romans de Pierre Loti ont pour cadre la Turquie, un roman asiatique en particulier, ou le Japon avec Madame Chrysanthème. Dans toutes ces œuvres, l'exotisme offre un cadre rêvé à l'âme romantique. Et avant d'aborder l'autre grand domaine de l'exotisme, la peinture, je vous propose d'entendre une musique elle aussi parfaitement exotique, celle de « Sur un marché persan » du compositeur anglais Ketelbe. La peinture, donc, si vous le voulez bien, et la fascination qu'exerce l'Orient et ses femmes voluptueuses, que l'on songe à ces nombreuses odalisques peintes par Ingres, puis Delacroix, Renoir, Matisse ou Picasso et bien d'autres encore. On nommera d'ailleurs orientalistes ces peintres dont beaucoup de Français, comme Jean-Léon Gérôme, mais aussi le Belge Jean-Baptiste Huysmans, qui auront ces scènes de harem, de désert ou d'oasis, comme sujet de prédilection.
Et ben voilà pour cette page très exotique, en tous les cas, de la chronique européenne cette semaine. La semaine prochaine, on a compris, hein, vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, vous nous parlerez a priori de colonisation.
Tout à fait, Sébastien.
Mais bon, qu'il va falloir patienter une semaine pour tout ça. Donc, rendez-vous même endroit, même heure la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine à vous.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.